franceinter.fr.
La paléontologie a longtemps été une science tributaire de la découverte de fossiles pour faire des avancées, mais une étude d'un genre nouveau, publiée la semaine dernière dans la revue Science, pourrait bien changer la donne puisque des chercheurs allemands montrent qu'il est désormais possible d'extraire de l'ADN animal et surtout néandertalien directement en analysant les sédiments retrouvés dans le sol de différentes grottes européennes. Antoine Balzo est au téléphone avec nous pour en parler. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléoanthropologue au Muséum National d'Histoire Naturelle, spécialiste de l'homme de Néandertal. Encore du nouveau donc, Antoine Balzo, grâce au séquençage de plus en plus facile apparemment de l'ADN ancien. Qu'est-ce que vous pensez de ces travaux? C'est vraiment une avancée pour vous dans la méthodologie?
La technique elle-même est assez extraordinaire. Ce sont des progrès méthodologiques importants qui vont donner de nouvelles informations pour mieux comprendre les sites. Donc c'est quelque chose qui va être vraiment utile. Notez quand même qu'on n'arrivera pas à se passer complètement de fossiles. Il y aura toujours du travail à faire sur les découvertes osseuses que l'on peut faire.
Alors Antoine Balzo, en quoi consiste précisément cette technique nouvelle ?
En fait, le principe technique, c'est le même que celui d'avant du séquençage génétique. À part que là, l'approche a été inverse. Plutôt que de se concentrer sur des objets où l'on sait qu'il y a potentiellement de l'ADN et essayer d'en identifier beaucoup et des longues séquences, leur approche a été de prendre des sédiments et de voir s'il y avait des traces à l'intérieur. Évidemment, quand ils trouvent de l'ADN dans ces sédiments, ce sont des fragments très petits, des morceaux très réduits, et uniquement de l'ADN mitochondrial, c'est-à-dire celui qui est le plus fréquent dans le corps. L'ADN nucléaire, il n'y en a qu'une copie, des mitochondries, il y en a énormément dans chaque cellule, et ça permet comme ça de multiplier la possibilité de trouver des informations.
Alors, on a souvent expliqué que même dans les eaux, l'ADN était très mal conservé, c'était rare d'en trouver. Comment ça se fait qu'il se conserve dans les sols directement?
En fait, il y a deux niveaux de conservation possibles. Il y a la présence et puis l'état de conservation. Dans les eaux, on en retrouve, quand on a de la chance, des petites traces, des morceaux plus ou moins longs. Les sédiments, c'est la même chose. Ça va être dans les mêmes contacts, c'est-à-dire sur des gisements où potentiellement on peut supposer qu'il y a une conservation relativement bonne. Eh ben, on va pouvoir retrouver ces traces d'ADN. Mais vraiment, c'est en ciblant sur des choses que l'on peut reconnaître aisément, donc plutôt des mitochondries et plutôt des séquences génétiques très identifiables des espèces humaines qui vont permettre de voir la présence. Et là, le propos, ça va pas être d'essayer d'extraire un ensemble d'informations biologiques, comme connaître la couleur de peau, essayer d'identifier des gènes qui ont un rôle fonctionnel, mais simplement s'assurer qu'il y a eu le passage d'un homme préhistorique à cet endroit-là.
Ce qui est déjà pas mal, hein, en soi.
C'est beaucoup, ça apporte énormément d'informations, et puis c'est un réel potentiel aussi. La limite, c'est qu'on ne peut pas savoir combien d'individus sont passés, peut-être plusieurs, à la limite, s'il y a plusieurs ADN mitochondriaux différents. Ça va pas révolutionner la connaissance du site si on a déjà des informations. Par contre, le potentiel pour essayer de documenter des zones qu'on ne connaissait pas est vraiment très très grand.
Ouais, mais c'est un hasard pour les scientifiques d'avoir trouvé cet ADN dans la poussière, on pourrait dire quasiment, Antoine Balzo, ou est-ce qu'ils vraiment ils avaient de bonnes chances d'en retrouver?
Bah, de la chance, il y en avait, donc ils en ont retrouvé, mais je crois que c'est aussi un objectif de ce laboratoire de faire des développements méthodologiques et d'essayer de nouvelles technologies et d'aller plus loin dans la compréhension des sites. Il y a peu, ils avaient développé tous les outils de paléoprotéomique où l'idée était de reconnaître d'autres nucléotides, d'autres éléments au milieu des eaux et ainsi arriver à mieux identifier un reste animal, même quand il y avait une dégradation très très forte de l'ADN. Bah là, on est un petit peu dans la même veine. L'objectif, c'est de documenter encore mieux les gisements archéologiques.
Alors là, toutes ces traces ont été trouvées dans des grottes déjà connues, des sites déjà fouillés. Est-ce que ça vaut le coup maintenant d'aller chercher ailleurs, dans des endroits apparemment vierges, par exemple ?
Il y a différents types d'applications vraiment à potentiel très important de cette technologie-là. Ça va être de documenter de la présence humaine dans des zones où on ne le sait pas. Par exemple, là, c'était des sites archéologiques de grottes où il y avait plein de restes. Mais l'objectif, ça pourrait être aussi de faire la même chose dans des sites de plein air, où il y a peu d'outils, peu d'objets, et on pourrait essayer de voir si l'homme est passé par là. Et puis surtout, le potentiel immense de cette technologie-là, ça va être de renseigner qui était présent dans des sites sur lesquels on a encore des doutes. Et c'est le cas, par exemple, des sites où on trouve des industries qu'on dit de transition, comme le Châtel-Péronien, où par définition, on avait proposé que c'était Homo sapiens qui l'avait fabriqué. Et finalement, on n'en sait pas trop. On pense même plutôt que c'était Néandertal qui le faisait. Mais pour clore définitivement le débat, une telle technique, en l'appliquant sur tous les sites où on a des niveaux où il n'y a que l'outillage et pas de restes humains permettraient de mieux savoir si c'est Néandertal ou Sapiens. Et puis l'autre région aussi à potentiel énorme, c'est tout ce qui est à l'est de l'Europe, sur des milliers de kilomètres jusqu'à la Chine presque, où on a des sites qui ont quelques dizaines de milliers d'années, une industrie qu'on appelle le moustérien, qui était l'industrie à la fois des Néandertaliens et d'Homo sapiens, mais pour beaucoup de gisements comme ça, très à l'est, on n'a pas trouvé de restes humains. Et si on arrive à cartographier les différents hommes qui ont pu exister, on va vraiment améliorer notre connaissance de la distribution humaine dans les temps passés.
Alors là, cette étude, c'est un peu une preuve de concept, mais est-ce qu'elle apporte déjà des éléments nouveaux par rapport à l'histoire d'Homo sapiens et de Néandertal en Europe ?
Cette étude-là en elle-même, pas trop. Dans le sens où c'est une validation d'une méthodologie, il y a quand même un intérêt pour un des gisements qui a été analysé. Déjà, ils ont essayé de tester dans des sites très très anciens pour voir si ça fonctionnait, même jusqu'au site de Totavel qui ont 400 000 ans.
Et
là, ils n'ont pas trouvé de traces d'ADN. Ce qui en soi est pas une surprise, mais pourquoi pas, ça valait le coup de tenter. L'information scientifique qui a été apportée et concerne le site de Denis Sova, ce fameux gisement où on trouve mélangé des Denisoviens et des Néandertaliens, mais qui est un site très très complexe, avec de nombreuses couches qui sont difficiles à bien comprendre. Là, ils ont étudié des niveaux plus anciens que ceux où il y avait les restes humains, où pour le moment il n'y a que des restes archéologiques, et ils ont pu reconnaître des occupations plus anciennes des Denisoviens et des Néandertaliens, ce qui montre qu'il y a vraiment eu un millefeuille d'occupation dans ce gisement-là, qui est situé très très à l'est, il est en Russie, oui. Ce site.
Vous pouvez nous rappeler qui sont les Denisoviens très rapidement ?
En fait, je pourrais pas, puisqu'on ne sait toujours pas ce que sont les Denisoviens. C'est en ça que, par exemple, les os vont toujours être utiles. Les Denisoviens, on ne les connaît que sur leur ADN. Donc quelques restes dont on n'arrive pas à reconnaître l'anatomie, parce que ce sont des ossements ou des dents qui sont vraiment qui sont peu caractéristiques, a été retrouvé un ADN qui est différent à la fois des Néandertaliens et d'Homo sapiens. Donc il a été proposé que ce soit un nouveau groupe humain, mais que pour le moment on ne connaît pas d'un point de vue biologique. D'où l'intérêt de trouver des ossements, on l'espère bientôt, pour savoir réellement à quoi ils ressemblaient.
Merci beaucoup en tout cas Antoine Balzo pour votre éclairage, suite donc à cette publication dans Science la semaine dernière, et qui nous apprend qu'on peut maintenant trouver de l'ADN dans les sédiments de ces grottes préhistoriques, ce qui permet de compléter la façon dont on travaille justement sur nos ancêtres. Merci à vous, je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre « Qui était Néandertal ?», l'enquête illustrée, c'est chez Belin, avec Emmanuel Roudier. Merci beaucoup Antoine Balzo.
Merci, au revoir.
À demain Axel, bonne journée. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la montée des eaux due au réchauffement climatique qui s'accélère. Pour la première fois, une équipe franco-suisse démontre qu'entre 2004 et 2015, le niveau des océans a grimpé 25% plus vite que les 10 années précédentes. Une démonstration qui a été difficile à obtenir car le satellite Topex Poséidon, qui mesure depuis 92 le niveau des eaux, était défectueux. Il a donc fallu d'abord prouver que l'appareil franco-américain ajoutait artificiellement 1 mm pour enfin réconcilier les données issues de la fonte des glaces avec les données altimétriques. Un soulagement pour la cohérence des résultats scientifiques, mais bien sûr donc une mauvaise nouvelle pour la planète. En présence de prédateurs, les baleineaux chuchotent pour ne pas se faire repérer en enregistrant le chant des baleines à bosse dans le golfe d'Exmouth en Australie. Les océanographes danois ont fait une découverte étonnante. Pendant que les baleines adultes vocalisent à tue-tête de longs cris fantomatiques, les jeunes tout à fait capables des mêmes prouesses restent pourtant très discrets et communiquent avec leurs parents en utilisant des vocalisations à faible niveau. Une précaution que les auteurs expliquent par la présence de nombreuses orques dans cette zone aquatique, des chasseuses hors pair effrayantes justement des petits baleineaux. Et puis pour terminer, donc attention aux clochettes du 1er mai, les fleurs de muguet seraient responsables de 2% des intoxications annuelles dues à des plantes. Sous ces airs frais et printaniers, toutes les parties de la plante contiennent de la convalatoxine qui est toxique en cas d'ingestion. Comme le rappelle le centre antipoison de Lille, quelques milligrammes de cette toxine peuvent suffire à initier une réaction. Les symptômes sont d'abord une irritation de la bouche, les douleurs abdominales, ensuite des nausées, des diarrhées et des vomissements. Ne laissez donc ni vos enfants ni vos animaux de compagnie jouer avec les fleurs ou l'eau du vase de ces bouquets donc que vous êtes nombreux à vous offrir en ce moment.